Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 8h.
On t'emmène.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Ils font tous, ces auditeurs, ils sont formidables. Bientôt, ils présenteront les journaux. Donc Agnès Bonfillon, bonjour à vous tous. À vous et profitez-en.
Bonjour chef, bonjour à tous.
Toute l'actualité du samedi, ça y est, cette fois c'est la bonne. C'est le début du Tour de France et c'est aujourd'hui.
Départ de Nice avec 2 mois de retard sur le calendrier habituel pour cause de Covid. Mais départ quand même. Pendant 3 semaines, les coureurs vont vivre une grande boucle très particulière. Et ils ne seront pas les seuls, Mickaël Lefebvre. Les fans de vélo vont devoir eux aussi s'adapter.
Oui, masque jaune aux couleurs du Tour sur le visage, Mathieu est descendu spécialement de Dijon pour assister aux premières étapes niçoises. En repérage sur la zone de départ, il a vite compris qu'il n'y serait pas le bienvenu.
Bah là, on voit rien du tout, il y a des panneaux noirs, donc c'était si on est dans les étages, sur les balcons, finalement, là, pour l'instant, on peut rien voir, donc c'est un peu l'incertitude totale. On risque d'être déçu si on peut pas du tout voir les coureurs.
Panneaux occultants pour éviter les attroupements, caravane réduite et sans distribution de cadeaux, col accessible de bonne heure et uniquement à vélo ou à pied, la liesse populaire qui entoure d'habitude le Tour de France en prend un sacré coup. Mais pour Jean-Claude, un Lyonnais qui suit la grande boucle depuis 1954, seule la course est importante.
Ce sera moins populaire effectivement que les tours précédents. L'important c'est qu'il ait lieu. Donc je souhaite qu'il puisse arriver à destination parce que c'est vrai que les restrictions sont vraiment draconiennes.
Pour apercevoir les coureurs, les spectateurs pourront quand même se mettre au bord des routes, mais à bonne distance les uns des autres et masque sur le nez.
Le reportage de Mickaël Lefebvre pour RTL. Forcément, cette édition 2020, quoi qu'il arrive, restera historique. L'ambiance, les mesures sanitaires et même côté sportif, hein, c'est un tour extraordinaire. Et ce dont on parle ce matin avec le premier carnet de route de Christophe Pacaud et Laurent Jalabert.
RTL, Tour de France 2020.
Le carnet de route de Laurent Jalabert.
Avec Christophe Pacaud.
Bonjour Laurent Jalabert.
Bonjour.
Un Tour de France qui débute ce matin, un Tour de France mode Covid tout de même, avec beaucoup de mesures de sécurité, on l'a répété Laurent Jalabert.
Ouais, un contexte très particulier pour le Tour cette année, avec certes une compétition qui devrait durer 3 semaines, qui sera extrêmement difficile parce que voilà, le parcours reste ce qu'il est, c'est-à-dire très montagneux. Allez, la grande inconnue est de savoir comment vont vivre les coureurs l'absence du public, quoi, puisque le public il devrait être normalement moins nombreux sur le bord des routes et notamment dans l'école.
Et vivre au quotidien avec des mesures sanitaires très strictes.
Alors, évidemment, les coureurs sont confrontés à cela depuis qu'ils ont repris la saison le 1er août. Ils sont finalement maintenant habitués à évoluer presque en vase clos, à l'abri des spectateurs, à être contrôlés régulièrement pour s'assurer justement d'être en pleine santé. Et sur ce Tour de France, peut-être encore plus qu'ailleurs, les mesures prises sont draconiennes. Et pour le coup, on a pratiquement l'assurance d'évoluer dans une bulle stérile.
Qu'est-ce qui va faire la différence finalement parmi les favoris? C'est la fraîcheur, puisqu'on n'a pas beaucoup couru cette saison.
Tous les repères ont volé un éclat. Les coureurs arrivent sur le tour sans avoir les mêmes références qu'à l'habitude. Pour le coup, il y a une part d'inconnu quand même. On n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques défaillances spectaculaires chez certains favoris.
À tout à l'heure, Laurent, pour l'étape du jour à 10h.
À l'heure.
Et bien évidemment, nous vous faisons vivre ce Tour de France sur RTL avec des points réguliers en direct à partir de 14h et l'arrivée en direct également.
Absolument, c'est un événement planétaire. Il y a plus de 190 pays qui retransmettent tout ça à la télévision. On en reparlera tout à l'heure avec l'invité de RTL Matin. 9h-10, ce sera Jérôme Pinault qui sera connecté depuis la ville de Nice, ancien coureur professionnel et aujourd'hui patron manager d'une équipe française BNB Hotel Vital Concept. Il parlera de ce tour tellement particulier avec nous sur RTL. 9h-10, vous restez là, la suite du journal La Presse aussi. On va vous raconter qu'un DAB, un distributeur de billets, a été pris pour cible hier dans les Yvelines. A tout de suite.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon pour la suite du journal. Toujours aucun suspect interpellé après l'explosion d'un distributeur de billets. C'était hier matin dans les Yvelines.
Oui, cela s'est passé sur le parking d'un supermarché de Mézières-sur-Seine. Le magasin a subi de très gros dégâts et le bilan humain aurait pu être bien plus lourd. Heureusement, seule une trentaine de blessés ont été très légèrement blessés. 4 d'entre elles ont été transférées à l'hôpital avec des brûlures superficielles. La scène, elle, a été spectaculaire, Valentin Boisset.
Il faut imaginer un magasin éventré au milieu
d'une zone pavillonnaire, une voiture explosée et des débris un peu partout autour. La scène surprend forcément. Mélanie habite derrière le magasin.
On a entendu une grosse détonation, en fait, un gros boum. On s'est demandé ce qui se passait, donc on a essayé de se mettre par la fenêtre. Un peu de fumée, on a entendu vraiment les policiers, tout ça arriver, donc on s'est demandé qu'est-ce qui se passait.
9h30, c'est l'heure à laquelle des petits déjeuners sont achetés dans ce Carrefour Market. Résultat, 4 personnes ont été hospitalisées pour brûlures. Evelyne est choquée par ce qu'elle a vu.
Le distributeur, il était collé à la paroi, donc forcément, ça a éventré. Il y avait un monsieur qui avait la jambe brûlée, qui a été emmené à l'hôpital.
Le quartier est plutôt tranquille, jamais un braquage n'avait eu lieu ici. Jacques, un voisin retraité, est venu prendre en photo les dégâts.
Je suis étonné parce que c'est calme. On n'est pas loin de Mantes, c'est tout ce que je peux dire. Il y a toujours des petites histoires du côté de Mantes, mais là, c'est surprenant. Il y a une bombe là-dedans.
L'inquiétude reste vive chez les habitants de Mézières-sur-Seine. Le où les braqueurs ont réussi à s'enfuir, ils auraient emprunté l'autoroute A13 située à proximité du magasin.
Le reportage de Valentin Boisset pour RTL à Lyon aussi. Toujours aucune nouvelle des braqueurs d'un fourgon blindé. Après avoir attaqué les transporteurs, ils sont repartis hier avec 9 millions d'euros. C'est le plus gros butin depuis le casse du siècle, comme on dit, de 2009, celui de Tony Musulin. Braquage, agression, incivilité quotidienne. L'opposition sait que l'insécurité sera l'un des principaux thèmes de la prochaine campagne présidentielle. Emmanuel Macron le sait aussi, il déplore une banalisation de la violence, mais aussi une accélération depuis quelques mois. Benjamin Sportouche.
Oui, le chef de l'État qui veut éteindre la polémique sans pour autant minimiser les faits, un reproche récurrent de l'opposition. Alors oui, a-t-il reconnu, quelque chose se passe dans notre société qui n'est pas neuf, mais qui s'est accéléré, dit-il, à la sortie du confinement, qui s'est durci. Emmanuel Macron veut donc une réponse intraitable à cette banalisation, immédiate tout d'abord. Il a demandé aux ministres de la Justice et de l'Intérieur de renforcer leur stratégie sans donner plus de détails. Mais aussi un traitement de long terme. C'est un problème endémique qui passe selon lui par l'éducation, par l'école. Réaction et prévention en même temps selon sa formule habituelle. Emmanuel Macron n'a pour autant pas repris à son compte le terme d'ensauvagement de Gérald Darmanin, mais preuve qu'à moins de 2 ans de la présidentielle, le président ne veut pas se laisser déborder. Eh bien, il reparlera sécurité dès la semaine prochaine à l'occasion des 150 ans de la République.
Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Emmanuel Macron qui par ailleurs veut tout faire pour éviter un reconfinement. Pour lui, le port du masque qui est obligatoire dans de plus en plus de villes, est une contrainte raisonnable, ce sont ses mots. Durant les dernières 24 heures, 7000 nouveaux cas ont été détectés. Le monde de la culture est durement touché par la crise sanitaire. 165 millions d'euros seront dédiés spécifiquement à la création cinématographique. Annonce faite hier soir par Jean Castex. Le Premier ministre était à Angoulême pour l'ouverture du festival du film francophone.
Agnès, nous allons à présent aux États-Unis où 57 ans jour pour jour après le discours de Martin Luther King, il y a eu une nouvelle manifestation à Washington.
Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies pour dire « ça suffit, les violences policières contre les Afro-Américains, ce n'est plus possible ». Dimanche dernier, un père de famille a reçu 7 balles dans le dos. L'agent qui a tiré n'a toujours pas été arrêté, ni inculpé. Est-ce que ce mouvement antiraciste qui prend de l'ampleur ces derniers mois va peser dans la présidentielle de novembre ? Donald Trump fait tout pour discréditer ce discours ces dernières heures. Il jubile, le président américain, car les échauffourées qui se sont produites dans la capitale américaine, eh bien ces images, pour lui, sont du pain béni, Philippe Corbet.
Oui, Donald Trump n'aurait pu espérer un plus beau cadeau pour célébrer son investiture comme candidat. Des images brutales, des manifestants qui insultent et menacent ses invités d'honneur à la sortie de la Maison-Blanche après son discours. Dans la cohue, ils doivent être protégés par la police. Elles font le tour des réseaux sociaux, en boucle sur Fox News. Et après avoir dénoncé toute la semaine l'anarchie et le chaos, le président jubile.
Ce sont les fameux protestataires bon enfant. Protestataire, ton cul. Je parle pas de mon cul. Ce ne sont pas des protestataires. Ce sont des anarchistes, des émeutiers, des pillards.
Les démocrates s'inquiètent. Joe Biden a beau dénoncer clairement les violences, le camp Trump a réussi cette semaine à répandre l'idée que son adversaire serait laxiste avec les pillards aux mains de l'extrême gauche radicale. C'est peut-être un tournant de la campagne.
Philippe Corbet, le correspondant de RTL, est toujours aux États-Unis. La mort de l'acteur Chadwick Boseman, qui tenait le rôle principal dans Black Panther notamment. Âgé de 42 ans, il a succombé à un cancer du côlon. Situation extrêmement préoccupante ce matin sur un navire humanitaire en Méditerranée. Le bateau qui appartient à l'artiste Banksy a lancé un appel à l'aide il y a quelques heures après avoir récupéré 130 personnes à la dérive à bord d'un bateau pneumatique. Selon l'équipage, à bord, il y aurait déjà un mort et des blessés qui présentent des brûlures au carburant. En ce moment même, le Louise Michel est immobile à une centaine de kilomètres au sud de la Sicile.
Et puis, vous vous souvenez peut-être du séisme du Teil en Ardèche. C'était le 11 novembre dernier.
Il n'avait pas fait de victimes, ce séisme, mais des dégâts considérables. Une étude vient d'être publiée sur ce tremblement de terre. En fait, il a bien été provoqué par la rupture d'une faille qui était pourtant considérée comme inactive depuis plus de 2 millions d'années. Ce qui fait dire aux scientifiques que la Terre ne dort vraiment jamais, Sophie Jousselin.
Oui, c'est bien la faille de la Rouvière qui est à l'origine de ce séisme. Pourtant, comme l'explique Jean-François Ritz, chercheur au CNRS.
La faille de la Rouvière n'était pas considérée comme active jusqu'à maintenant. Et finalement, cette faille a bougé. C'est comme si, si vous voulez, de part et d'autre, d'un plan, il y a un bloc qui monte par-dessus un autre. En l'occurrence, là, il a enregistré une dizaine de centimètres de déplacement au niveau du sol.
Et ce séisme peu profond, environ un kilomètre et de forte intensité, interpelle les scientifiques et rebat un peu les cartes.
Bien sûr, ça pose la question de savoir si d'autres segments de faille dans la région, ou ailleurs d'ailleurs, qui ne sont pas cartographiés comme actifs, pourraient produire le même type de séisme. Il faut aller plus loin dans la compréhension du fonctionnement de ces failles, à travers des sections, des coupes géologiques, on appelle ça des tranchées. Et ensuite, il y aura bien sûr des conséquences en termes de réévaluation du risque sismique pour les installations nucléaires et pour toute autre installation humaine d'ailleurs.
Et si on arrive à savoir quand ces failles inactives ont connu des ruptures dans le passé, on devrait pouvoir prédire les futurs séismes qu'elles pourraient provoquer.
Sophie Jousselin pour RTL.
Agnès, nous parlions autour de France en début de journal, mais l'actualité sportive c'est également le football.
Évidemment, en début de la deuxième journée de Ligue 1, les Lyonnais ont fait une entrée fracassante pour leur premier match. Victoire 4-1 face à Dijon grâce à un triplé de Memphis Depay. L'OL qui voit son milieu de terrain en quarantaine. Moussem Aouar a été testé positif au Covid-19. Il ne pourra donc pas participer au premier match des Bleus les 5 et 8 septembre prochains contre la Suède et la Croatie. C'est Nabil Fekir qui est convoqué à sa place par Didier Deschamps.
Voilà, on a réfléchi cet été avec toute la direction bien sûr de RTL en se disant tiens, on pourrait peut-être confier à Agnès Bonfillon une rubrique football, une petite chronique, vous savez, le week-end. Et comme on a réfléchi, finalement on a dit non, on a laissé ça à un professionnel.